Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait, ça y est, c'est le moment. Tous les jours sur Europe 1, un grand voyage, juste pour le plaisir de rêver, de tout oublier. C'est parti.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler.
À 17h tout à l'heure, une destination fantastique. La cordillère des Andes, la Patagonie, Ushuaia, le train des nuages, Buenos Aires, la Pampa. On pourrait en aligner des noms qui font rêver. Je vous emmènerai en Argentine. C'est un très beau voyage. Ah oui, on y est déjà là, en musique. Et tout de suite, juste avant, j'étais parti avec la musique argentine, j'étais déjà loin. Juste avant, dans quelques instants, nous irons en France, vers une destination largement sous-estimée, dans laquelle l'évasion pourtant peut être totale, dans ces forêts magnifiques, très riches, avec toutes sortes d'essences d'arbres. C'est la région la plus boisée de France, une région avec des villes comme Nancy et sa célèbre place Stanislas, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une région connue pour ses mirabelles, 70% de la production mondiale des mirabelles, c'est là. Je vous emmène maintenant en Lorraine. Je vous promets que dans une heure, vous ne verrez plus la Lorraine du même œil. Et je suis bien sûr avec tous mes amis voyageurs qui nous accompagnent tous les jours entre 16h et 18h sur Europe 1 avec Nathalie Elal, auteure, grande voyageuse, bonjour.
Bonjour à tous.
Avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet,
bonjour. Bonjour Philippe.
Olivier Pouls, incontournable gastronome.
Et bonjour, et prêt au départ aussi.
Prêt au départ aussi. Jean-Bernard, la Lorraine, ça vous dit quelque chose ?
Bien sûr, j'y suis né, j'ai grandi, c'est ma région de cœur, viscéralement attachée à cette région. Alors elle se trouve dans le Grand Est, voilà, les frontalières avec la Sarre, avec le Luxembourg et la Belgique, ouais. Et deux grandes villes, Metz et Nancy, les deux grandes rivales, mais en fait elles sont très complémentaires, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs.
Nathalie, il y a du beau monde hein, qui vient de là-bas.
Ah oui, c'est rien de le dire. Alors d'abord, j'ai relevé pour vous un des frères Goncourt. Vous savez, l'écrivain cofondateur du célèbre prix littéraire Edmond, parce qu'il y avait Edmond et Jules de Goncourt. Alors Edmond est né à Nancy, et il faut le dire, les frères Goncourt, c'était des langues de vipères.
Ah bon ?
Épouvantable, infréquentable.
Comment ça ?
Mais oui, misogyne, raciste, égocentrique, enfin, tout pour plaire, des vrais teignes. Je vous le dis tout de suite, des vrais teignes. Bon, dans un autre registre, lui, pas du tout une teigne. Jack Lang, qui est né à Mirecourt, ancien ministre de la Culture, bien sûr. Patricia Cass, la célèbre chanteuse, née à Forbach. Charles-Élie Couture à Nancy. Son frère cadet, Tom Novembre, également à Nancy. Karine Le Marchand, toujours à Nancy,
ah oui.
Jean-Pierre Coff, qui n'est plus là. Lunéville, absolument, Jean-Pierre Coff.
Pépinière de talent.
Oui, il y en a énormément. Michel Platini, évidemment, on ne présente plus, qui était né à Jeuf, en Meurthe-et-Moselle. Laurent Mariotte,
d'Europe 1,
Épinal. Et puis, bien sûr, Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, dont je vous parlerai tout à l'heure. Pas du tout d'Orléans, hein. Justement, elle est de Don Rémy. En Lorraine.
Très bien, bah dis donc, quel tableau.
Quel catalogue.
Incroyable. Olivier, la Lorraine.
Catalogue n'est pas aussi vaste, mais il y a des choses quand même.
On est dans la quiche, forcément.
Incontournable, la quiche Lorraine. Et on va tout de suite clore le débat. Pas de fromage dans la quiche Lorraine, dans
surtout
la version
pas.
Officielle.
Pas de fromage dans la quiche.
Non, et je vous expliquerai tout à l'heure les recettes de cette quiche incontournable. On pourrait aussi parler, évidemment, du pâté lorrain, vous l'avez évoqué, la mirabelle. Mmh. D'ici quelques semaines, on va les voir arriver. Et puis là, je peux vous garantir qu'il y a des tartes magnifiques
qui vont
se préparer, les bonbons des Vosges. Et puis, je vous parlerai aussi tout à l'heure de la fameuse Madeleine de Commercy, la célèbre et l'unique.
Très bien, quel programme, on a du boulot. Tout à l'heure, à 17h, je vous emmènerai après la Lorraine, dans les profondeurs de l'Argentine, chez les Mapuches, entre autres. C'est une communauté qui vit en Patagonie, c'est presque un peu les Indiens comme on les imagine, à cheval, dans les immensités. Donc tout ça, c'est dans la deuxième heure. Mais tout de suite, nous sommes donc dans cette région qu'il faut absolument découvrir, la ligne bleue des Vosges, les forêts profondes, les gîtes loin de tout, au calme, la zénitude, bref, la Lorraine. A tout de suite.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1 ? Grand départ pour l'Argentine tout à l'heure après le flash de 17h. Et tout de suite, la Lorraine. Alors on avait avec Nathalie qu'il y avait du beau monde là-bas, pas mal de célébrités qui venaient de cette terre fertile. Et il y en a une que vous connaissez tous, elle est sans doute dans votre petit écran très régulièrement, elle est presque tous les soirs sur France 3, c'est la présentatrice du journal 19-20 sur France 3. Voilà, on est tout de suite dans l'ambiance. Carole Gessler, une vraie Lorraine. Bonjour Carole.
Bonjour, bonjour à tous.
Carole, c'est super sympa d'être avec nous pour nous parler de la Lorraine, parce que je pense qu'on vous a interrompu en pleine conférence de rédaction, là, c'est ça ?
Oui, on est en préparation du journal de ce soir, mais c'est avec grand plaisir, parce que je me dis, oh, on parle de la Lorraine comme une destination de vacances, mais vous imaginez, mais c'est formidable à Europe 1.
Mais oui, mais on sous-estime la Lorraine.
Exactement, mais pendant des années, les Lorrains, on en a souffert, qu'on voit toujours notre région comme la vallée de la Fensch grise, avec de la sidérurgie, et qu'on oublie nos forêts vosgiennes, notre place Stanislas de Nancy,
une des plus belles places du monde.
Magnifique à Metz.
Alors, vous êtes originaire de la Moselle, vous êtes né à Thionville, vous avez grandi les quatre premières années à Zottrich, un tout petit village sur la, sur la route du Luxembourg. Quel souvenir d'enfance vous gardez de là-bas ?
Écoutez, de la nature, c'était une vieille maison, alors il n'y avait pas tout le confort, et j'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça, mais effectivement, je me rappelle très bien de ma maman qui me lavait dans un bac dans l'évier de la cuisine, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, c'est pour cette raison qu'on a déménagé après, vous savez, c'était le lotissement, c'était d'avoir tout le confort, mais je me souviens de mon arrière-grand-mère qui vivait au deuxième étage, donc il y avait vraiment ce côté intergénérationnel qu'on a perdu après en changeant de maison, qui est très fort pour moi, parce que ça voulait dire, les repas de mon arrière-grand-mère, ça voulait dire un potager, ça voulait dire la boulangère qui passait avec sa camionnette et que je suivais, je montais le matin et ma mère me retrouvait à l'autre bout du village, j'avais 3 ans et demi.
Ah bon, vous partiez faire la tournée du boulanger ?
Oui, d'ailleurs, la boulangère, elle s'appelait Flora et elle vit toujours et je l'embrasse si elle m'entend. Oui, c'était un personnage, vous savez, où on klaxonnait quand on arrivait dans le village, où elle connaissait la vie de tout le monde, où on passait 5 minutes à discuter. Et pour moi, c'était l'aventure de monter dans sa camionnette et d'aller vendre le pain avec elle. Ce que j'ai fait franchement, je pense bien, pendant de mes 3 ans à 4 ans, j'ai fait ça chaque fois qu'elle venait.
Ensuite, vous avez déménagé vers Étanges-Grandes, j'espère que je le dis bien. Donc, vous êtes passé du village au bourg, disons. Vous y resterez jusqu'à l'âge de 18 ans. Une adolescence dans cet endroit, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce que vous faisiez de votre temps libre ?
Écoutez, je lisais beaucoup, on se baladait beaucoup parce qu'on était en bordure de forêt, donc on se baladait beaucoup en forêt. Moi, j'avais mes amis dans le quartier, donc vous savez, on faisait de la luge, les vieilles luges en bois, on habitait en haut d'une côte, donc voilà, les hivers étaient un peu plus rude il y a une quarantaine d'années qu'en ce moment. Et puis, pour moi, c'était le dimanche, c'était les gâteaux et les repas de ma maman. Après la messe...
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gâteaux
voilà,
là-bas.
On avait le repas familial.
Il y a beaucoup de gâteaux là-bas. Les saisons sont un peu rythmées par les gâteaux.
En tout cas, moi... Très clairement. Alors, c'est gâteau au vin en plein hiver, parce que ma maman est née en Allemagne. Donc, je veux dire, il y avait vraiment une tradition de la gastronomie allemande. Il y avait les spritz à Noël.
Ah, les spritz, quel bonheur.
Ah, les spritz, c'est un petit bonheur. Alors, il y a autant de beurre que de sucre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est direct. Voilà, mais c'est tellement bon avec une mandarine, c'est vraiment juste délicieux. Elle continue à en faire. En février, c'était les vrais beignets, vous savez, avec la pâte à la levure qui gonfle dans un grand plat sur le radiateur ou sur le poêle. Voilà. Et il y a ce qui pour moi est alors le top, c'est un gâteau au fromage blanc. C'est pas un cheesecake, on n'est pas aux États-Unis, on est en Lorraine. Et c'est du fromage blanc, de la crème fraîche. Il y avait un petit peu de pudding dedans. Mmh. Et vous faites ça avec une pâte sablée. Et je vous assure, c'est d'une fraîcheur. Et en même temps, maman le faisait de façon assez légère et très fouettée. Et c'est juste un bonheur.
Et j'imagine aussi des tartes au Mirabelle. Vous deviez aller au Mirabelle.
Oh bah, oui, et à la Couèche. Alors évidemment, tartes à la rhubarbe au printemps, Mirabelle début septembre et mi-septembre, c'était la Couèche. Moi, je préférais la Mirabelle parce qu'elle est plus douce. On peut la faire un peu plus confire, alors que la Couèche est un tout petit peu plus dure. J'aimais moins cette acidité. Mais alors la Mirabelle, une confiture à la Mirabelle,
la confiture,
c'est juste un pur bonheur.
Ouais.
Merci beaucoup, Carole. On reste avec vous. On va continuer à découvrir la Lorraine dans un instant. Et figurez-vous que j'ai appris, vous nous raconterez ça, qu'il y a même une école maternelle à votre nom, à Zottrich. Oui. Vous nous direz ça dans quelques secondes sur Europe 1. Okay. Et si on partait sur Europe 1, je vous emmènerai tout à l'heure à 17h en Argentine. un pays à la nature impressionnante où on passe des forêts tropicales et des énormes chutes d'Iguassu qui sont fantastiques jusqu'aux glaciers de Patagonie. On fera un grand voyage tout à l'heure, donc de 17h à 18h, mais tout de suite on retrouve la Lorraine, une terre très riche aussi de nature et de patrimoine. D'ailleurs, vous savez d'où vient le nom Lorraine? Ça vient de Lothaire II, qui était un des petits-fils de Charlemagne. Et comme il s'appelait Lothaire, ben on a appelé la région Lotharingie, d'où Lorraine. Voilà. Et nous sommes toujours en compagnie de Carole Gessler, une vraie Lorraine. Bon, j'imagine que vous reconnaissez cet air, Carole.
légèrement déraciné, hein. Des ailes. Je vais partir d'ailleurs mercredi, je pars à Albi pour faire une émission à Albi, en Occitanie.
Très belle région aussi. Ça fait 6 ans que vous êtes à la tête de cette émission mythique. Vous êtes un peu le guide idéal pour nous faire partager les plaisirs et les découvertes à faire en Lorraine. Expliquez-moi cette histoire d'école maternelle qui porte votre nom.
Écoutez, en 2013, le maire de la petite commune dans laquelle donc j'ai grandi, en tout cas de mes 4 premières années, Zeutriche, est venu me voir et m'a dit, bah voilà, ça nous ferait plaisir, on serait très fiers de mettre ton nom sur une école maternelle, voilà, Zeutriche. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir que nous sommes 2 filles, donc le nom Gessler a plutôt tendance à s'éteindre, que mon papa venait de décéder et que j'étais très fière que Gessler, qui lui était alsacien, ce nom perdure. Et il se trouve qu'en plus, Master, qui a des petits-enfants, ses enfants étaient dans cette école maternelle. Donc c'est quand même très chouette de se dire que ses neveux, son neveu et sa nièce, voilà, sont dans une école qui porte le nom de la famille. Et voilà, j'en étais très fière.
Super. Alors visiblement, vous avez passé une enfance dans un monde plutôt rural, plutôt modeste. Comment est-ce qu'on passe de cette ambiance-là à l'univers de la télévision ?
Par envie et par hasard, c'est-à-dire l'envie, j'étais dès l'âge de 14 ans, j'étais curieuse et j'avais dit à mes parents je veux être avocate ou journaliste. Mes parents étaient un peu apeurés par le mot de journaliste, voilà, mais je leur ai dit je sais pas. Ils m'ont dit écoute, essaye de voir qui pourrait t'aider. Et j'ai envoyé une lettre à la directrice du Républicain Lorrain, qui est toujours le journal régional, et Madame Puldemange, qui était une grande dame, m'a reçue, on a discuté, elle m'a conseillée pour mes études. Et à la fin, elle m'a dit, est-ce que tu veux faire un stage au Républicain Lorrain cet été? Pas rémunéré, mais voilà. Et j'avais 16 ans et mon père m'a amené tous les jours à l'agence de Thionville. J'ai écrit mes premiers papiers, je crois, sur les pigeons qui faisaient des gros dégâts dans le centre-ville de Thionville. Voilà, mais j'étais tellement... Et ça a conforté mon envie. Et c'est là que je me dis, vraiment, les stages sont tellement importants pour les gamins. Ouais. Parce que vraiment, ça peut leur donner toute l'énergie, la force et la persévérance pour aller jusqu'au bout d'un rêve.
Alors moi, j'aimerais qu'on parle d'un gros sujet, c'est l'accent. Parce que vous savez, moi, je suis d'origine franc-comtoise, où il y a aussi un accent assez marqué, moi, que j'adore, hein, je le trouve savoureux. Et quand vous êtes venu à Paris, vous deviez avoir un peu l'accent lorrain, qui parfois est assez fort. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour le perdre, ou alors c'est venu spontanément le côté plus sweet de la langue française parisienne, hein?
Oui, plus sweet, comme vous dites. Non, j'avais pas l'accent très très fort. Ma tante a un accent très fort, même ma maman l'a plus. Voilà, j'avais des expressions.
Comme quoi,
vous
par
savez,
exemple.
Chez nous, on dit, eh ben, par exemple, quand il y a un courant d'air, c'était une ça expression tire. Populaire, ouais. On dit ça tire. Ouais, ça tire. Shit, parce qu'en allemand, c'est shit, ça tire. Voilà. Et donc, j'avais des petites réflexions comme ça. Voilà. Et puis après, c'est bon, ça, je ne l'ai pas perdu. Je pense que les téléspectateurs doivent s'en rendre compte. Quand je dis bon week-end, j'ai une façon de dire le week-end. Même pas, hein, parce qu'on me reprend, mais je ne sais pas comment
qu'est-ce
dois me rééduquer.
Quand vous dites bon week-end, j'ai pas entendu.
Je sais pas, j'ai une façon de dire ce week-end, tout le monde me dit oui. Une façon de le dire.
On le dit de la même façon en Belgique d'ailleurs, parce que moi qui suis d'origine belge, on me repère à la façon de dire le week-end.
Le week-end.
Voilà. Mais bon, j'assume parfaitement. C'est vrai qu'au départ, on a plutôt tendance, en tout cas, moi je suis arrivée en 96 à Paris, on avait tendance un peu à aseptiser finalement, à gommer, on va dire, les disparités régionales, ou je sais pas comment on peut dire, les spécificités régionales. C'est vrai qu'au début, vous arrivez d'un milieu modeste. Vous n'avez pas forcément tous tous les codes parisiens. Il faut du temps pour comprendre un peu ce monde, ces codes. Et vous arrivez là, et au début, je complexais, sincèrement. Oui, un peu, parce que j'avais des origines modestes, que je ne comprenais pas forcément tout de ces codes, et qu'en plus, on me disait que j'avais un accent. Bon, et puis à un moment donné, je me rappelle, c'est mon père qui me dit « Mais tu es ce que tu es, et sois fier d'être ce que tu es. »
Mais mon il a bien raison, votre père. Est-ce que voilà, vous pourriez nous faire...
Mais c'est vrai, vous arrivez, gamine, enfin, je pense qu'aujourd'hui encore, regardez l'accent de notre Premier ministre. Je veux dire, ça a fait des commentaires, des sujets. J'ai même vu, je crois, Midi Libre, on a fait sa une en disant « Nous sommes fiers de notre accent. » Oui, soyons fiers de nos différences. Ouais. Il ne faut pas qu'elles soient
Est-ce que vous pourriez nous faire un tout petit peu d'accent lorrain, qu'on entende à quoi ça ressemble, en grossissant
non,
un peu le
trait. Oui, parce qu'on a une caricature et c'était Hakatoche,
c'est ça. Oui. Ça, c'est vrai, exactement.
J'ai pas compris, c'est quoi ?
On dit Agodoche, au lieu de dire Agondange.
Agodoche,
ouais. Voilà, là, on reconnaît vraiment
Agodoche,
les Mosellans.
Agodoche, tout le monde descend. Ouais. Et toi, t'es content ? Tu pars en vacances ?
C'est ça, c'est exact, elle
t'es
le fait super bien.
T'es content. Non, mais après, je caricature parce que, sincèrement, ça serait vraiment de se moquer de tous ceux qui ont un accent lorrain. Et là, je l'ai vraiment caricaturé. Et je m'en excuse, j'ai pu en blesser quelques-uns parce que
non,
c'est
parce
vraiment
que...
pas.
Mais
vraiment
parce qu'on
pas
adore les accents. Alors, vous savez, moi, je suis un grand défenseur de l'accent franc-comtois. Il faut qu'on garde nos accents. Nathalie, vous avez fait une petite enquête. Vous avez trouvé des expressions qui sont utilisées en français, mais qui viennent de Lorraine.
Oui,
et là
on
aussi,
imagine,
c'est très riche.
On n'imagine pas du tout, d'ailleurs. Et elles sont évidemment employées dans le français courant, quotidien. Par exemple, ça Sacaille, il fait froid. Bon, bah, ça vient du lorrain, sacaille. Chouravé, qui veut dire voler. Un ch'tard, un bouton, vous savez, un petit bouton là sur la face, pas très saillant. Clamsé, qui veut dire mourir. Les darons, pour dire les parents. Derche, pour dire les fesses. Jarté, pour dire dégager.
Tout ça, c'est lorrain.
Marmot,
et d'ailleurs,
également. Chlinguer,
c'est faux derche.
Oui, exact, absolument.
Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Carole, de nous avoir raconté un petit peu de votre Lorraine. On pourra en parler des heures avec vous.
Merci. En tout cas, les Lorrains, sincèrement, les Lorrains sont formidables, très accueillants. Et vraiment, perdez-vous en Lorraine, rencontrez, allez dans des gîtes, allez dans la nature, profitez de ce moment de entre guillemets, de confinement en France pour vraiment visiter des régions qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Vraiment, ça vaut le coup.
Merci, Carole. Je rappelle que tous les téléspectateurs peuvent vous retrouver dès ce soir, d'ailleurs, à la présentation du journal télévisé, le 19-20 sur France 3 et dans des
Merci,
racines
bel après-midi
et
bel été.
Bon
au
été.
Au revoir.
Très vite, à ce soir.
Au revoir.
On retrouve dans tout petit instant les histoires savoureuses de Nathalie Hellal, qui se niche dans les histoires de la Lorraine. A tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait ? Tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
Si desapareció, él me aparecerá. Pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Y un chico adivinó. Oímos una voz. Tango, rumor de pañuelo blanco. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años. Existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir todavía.
d'Argentine. On y partira tout à l'heure à 17h. C'était Gotan Project, un groupe franco-suisse-argentin qui mélange comme ça le tango et la musique électronique. Tout de suite, ah bah oui, on va partir en Lorraine avec, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, on va partir en Lorraine dans 3 secondes, voilà.
Europe 1, Philippe Googler.
Je viens de faire un petit salto arrière. Nathalie
avec réception
là,
avec habile. Hein.
Belle réception quand
ouais,
même.
Belle réception.
Il y a des trampolines dans le studio, Philippe, tout va bien.
Donc tous les jours, nous partons sur Europe 1 vers des destinations lointaines, l'Argentine tout à l'heure et tout de suite la Lorraine, avec une histoire assez incroyable que vous avez dénichée, Nathalie Elal. C'est que la Saint-Valentin aurait son origine en Lorraine également.
Oui, absolument, on ne l'imagine pas, mais en effet, à l'origine de la Saint-Valentin, il y a une fête traditionnelle médiévale qu'on appelait la Saudée. Alors, le 14 février, en Lorraine, eh bien, les jeunes hommes se réunissaient en comité, ils s'amusaient à former des couples, et là, chose très agréable pour ceux qui n'étaient pas d'accord, eh bien, ils les proclamaient sur la place publique.
C'est-à-dire qu'ils formaient des couples à distance, sans leur demander leur avis.
Oui, exactement. Alors, lorsqu'une jeune fille était choisie, évidemment, par plusieurs garçons, j'imagine la plus jolie, hein, au passage, eh bien, ils devaient plaider leur cause devant une sorte de tribunal d'opérette pour se départager à qui aurait la fille. Et puis, évidemment, quand certains couples formés ne s'appréciaient pas, ça faisait un peu des choses improbables.
Bah oui.
Alors, en guise de lot de consolation, il y avait une sorte de loterie de bouteilles de vin pour réchauffer les cœurs à l'issue de cette fête très, très populaire. Ah, vous imaginez, Olivier, quel vin on devait arroser pour réconcilier les uns et les autres. Alors, il y avait des fausses fiançailles durant un an, l'obligation pour le jeune homme d'offrir des cadeaux à l'élu de son cœur. Et les cadeaux, c'était assez modeste. Hein. Somme toute, c'était des cartes ou des images qui étaient fabriquées en tissu ou en papier.
Vous savez que moi, je connais un endroit où ça existe encore, ça. C'est dans votre pays, Olivier.
En Belgique ?
Oui, c'est à Écossine. Ça s'appelle la foire aux célibataires. Et j'y suis allé une fois. Je suis allé faire un reportage.
Hein, vous avez gagné une bouteille de
sur la place publique.
C'était professionnel. Et j'y suis allé.
C'est ce qu'on dit.
C'est un 8 août. Et effectivement, on rassemble plein de célibataires. Alors après, il y a différentes formules. Hein, mais vous pouvez éventuellement demander à un groupe de décider pour vous, de vous associer avec quelqu'un. Et puis après, vous êtes mis face à face. Et
il faut avoir
vous
confiance quand même. Hein.
Ah, il faut avoir grosse confiance. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein, ça, je vous le promets. Alors après la Saint-Valentin, donc de Lorraine, le nain jaune aussi qui viendrait de Lorraine.
Oui, le nain jaune qui est un jeu de cartes et de stratégie. Mais enfin, vous allez voir pourquoi. En fait, je vais vous parler du nain bébé du roi Stanislas de Lorraine. Alors, le roi de Pologne et duc de Lorraine, Stanislas Leszinski, qui était un homme bienveillant, beau-père de Louis XV, qui était un grand mécène, un protecteur des arts, avait pour meilleur ami un drôle de compagnon. Il s'agissait de son nain bébé. Alors,
ah bon,
en fait, c'est un homme qui est né à Champenay, hein, dans les Vosges. Il s'appelait de son vrai nom Nicolas Ferry. Il pesait à la naissance 612 grammes, mais surtout mesurait 19 centimètres.
Ah oui,
alors, il a survécu miraculeusement. Il est devenu très célèbre dans la région. Et donc, Stanislas, duc de Lorraine, invite les parents Nicolas Ferry pour voir l'enfant à Lunéville. Il propose de le garder et de l'éduquer en échange d'une somme rondelette. Parce qu'il faut bien vous dire qu'à l'époque, on est au XVIIIe siècle, les nains sont des attractions célèbres dans les cours européennes. Ils ont un peu succédé au bouffon du roi médiéval, finalement. Donc Stanislas adorait son nain, il l'habillait comme un prince, il avait fait fabriquer une maison en bois à sa taille dans une pièce du château, il avait des couverts spéciaux fabriqués par un orfèvre, une calèche sur mesure tirée par 4 chèvres. Mais c'était un personnage un peu bizarre, ce nain était facétieux. Alors, il paraît qu'il se faufilait sous les jupes des filles pour leur arroser les fesses. Oui, ouais, comme des choses comme ça.
C'est sympa comme activité.
Oui, c'est sympa. Mais il était aussi lunatique, colérique, parfois méchant. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé le nain jaune, c'est-à-dire en référence à un personnage cruel de conte de fées. Pour vous dire à quel point il était cruel, il a essayé de balancer dans la cheminée du château un autre nain célèbre qui s'appelait Joujou parce qu'il était jaloux de lui. L'autre avait beaucoup plus de don. Et donc, de là vient ce jeu de cartes qui mêle le hasard et la stratégie qui apparaît en Lorraine en 1760, le nain jaune. Alors, le pauvre Nicolas Ferry est mort d'une grippe à 23 ans avec tous les signes de la vieillesse. Et pour info, son squelette est exposé au Musée de l'Homme à Paris.
Ah ouais, mmh. Ah, vous êtes extra pour aller chercher ce genre d'infos, hein, Nathalie. Alors, la suivante, elle est encore plus forte. Elle pourrait soulever un scandale. C'est que la pucelle d'Orléans, en fait, et Lorraine.
Oui, alors Jeanne d'Arc, évidemment, on l'appelait la pucelle d'Orléans. En réalité, d'ailleurs, elle s'appelait Joannette. Et si son père portait le nom d'Arc, comme l'a déclaré elle-même la pucelle lors des interrogatoires qui ont été menés par le redoutable évêque Cochon, eh bien, dans son pays, c'est-à-dire Dom Rémy, les filles portaient le nom de la mère. Donc, sa maman s'appelait Isabelle de Vouton. On l'a surnommée Romée. Pourquoi ? Parce qu'elle avait fait un pèlerinage à Rome. Elle était très très pieuse, comme Jeanne, bien évidemment. Donc le vrai nom de Jeanne d'Arc, la Lorraine, serait Joannette de Vouton ou Joannette Romée.
Ah, d'accord.
Au choix.
On apprend de ces
trucs. Ça vous sidère, vous. Hein ?
Oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'on l'a condamnée, alors, finalement ?
Bon, elle a été déclarée hérétique, évidemment, malheureusement brûlée sauvagement au bûcher le 30 mai 1431, parce que si on n'a jamais pu prouver qu'elle usait de sorcellerie, et Dieu merci d'ailleurs, elle a été condamnée finalement pour deux raisons assez incroyables, vous allez voir. D'abord, parce qu'elle affirmait entendre des voix, évidemment, et puis surtout, et ça on le dit beaucoup moins, parce qu'elle portait des habits d'homme. Elle portait une sorte de tunique, hein, une robe courte, un chaperon, un pourpoint, des choses, et puis elle avait coupé ses cheveux en rond, façon Mireille Mathieu, hein, dans les années 80, vous voyez. Donc Mireille, on l'a pas brûlée, elle est toujours bien là, mais alors Jeanne, pas de bol. Hein. Donc les juges se sont appuyés sur un texte assez particulier pour la faire condamner. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu.
Eh ben dis donc, voilà une bonne raison de brûler quelqu'un, c'est clair, c'est sûr. Eh ben merci beaucoup Nathalie pour
Mais
toutes ces infos
prie.
Incroyables sur la Lorraine. Dans un instant sur Europe 1, nous allons nous sustenter façon Lorraine. Et évidemment, quid de la quiche ? La quiche est-elle vraiment Lorraine ? Pourquoi ? Réponse dans un instant avec Olivier Pouls. Et si on partait sur Europe 1, la Patagonie, les glaciers géants, la Pampa, avec les gauchos qui gardent leur bétail à cheval dans des espaces immenses, nous serons en Argentine à partir de 17h après le flash. Mais là, tout de suite, nous sommes dans la quiche, la vraie, la Lorraine. Olivier Pouls, racontez-nous la quiche Lorraine.
Et mon cher Philippe, à 16h39, est-ce que vous vous payeriez bien une bonne part de quiche ?
Mais oui, parce qu'une quiche au goûter, c'est très bon.
Et c'est je vais bon même vous... à toute heure du jour et de la nuit, d'ailleurs.
Et je vais même vous dire que chez moi, en Franche-Comté, alors c'est pas très loin de la Lorraine, on l'a trempé dans le café au lait à l'heure du goûter.
Ouais, ça, je vous le laisse, par contre. Moi, je vais la manger comme ça. Alors, la quiche Lorraine, c'est vrai que c'est un plat qui est mondialement connu. Et c'est un plat qui apparaît officiellement, enfin, on en entend parler sous ce nom-là pour la première fois en 1586, chez le duc de Lorraine, qui adorait ça. Mais en fait, c'est une recette qui est beaucoup plus ancienne et qui a surtout beaucoup évolué au fil du temps. Parce que qu'est-ce que c'était que l'idée d'une quiche ? Eh bien, c'était à l'époque, dès le XIe siècle d'ailleurs, les villageois qui se retrouvaient le jour du pain chez le boulanger et qui récupéraient les petits morceaux de pâte qu'ils étalaient et sur lesquels on mettait, alors en fonction des familles et des besoins, un peu ce qu'on trouvait. Et généralement, ben, c'était des œufs, un petit peu de crème, et puis ceux qui avaient un peu plus d'argent avaient un petit peu de lard fumé à l'époque, parce qu'on fumait le lard pour le conserver. On mettait ça sur ce morceau de pain, on le cuisait. Et ça, c'est l'ancêtre de la quiche, c'est telle qu'elle a été inventée en quelque sorte à l'époque, mais elle n'était pas faite comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire épaisse, avec ce qu'on appelle donc une migaine. Une migaine qui est un mélange de crème et de lardon, et que l'on met maintenant en épaisseur quand même assez substantielle, de manière à ce que cette quiche soit bonne et nourrissante. Mais il y a une chose qui est absolument sûre et certaine, c'est que dans cette originale quiche Lorraine, il n'y a pas de fromage.
Jamais.
Non, jamais.
Hérésie, effectivement.
Et aujourd'hui non plus.
Non. Alors, évidemment, il y a des chefs, y compris lorrains, et je pense à Michel Roth, grand chef, meilleur ouvrier de France, et grand chef lorrain qui en glisse un petit peu dedans parce qu'il trouve ça bon. Alors, évidemment que c'est bon, mais c'est une petite transgression à la recette originale. Franchement, si vous mettez un tout petit peu de fromage dedans, je vous en voudrais pas. Mais essayez tout simplement de la réaliser sans fromage. Le mélange entre les œufs et la crème suffit à faire gratiner cette quiche qui est absolument merveilleuse à manger avec une petite salade croquante.
Ah, moi, j'ai longtemps cru que la quiche était une tarte au fromage au lardon.
Non, pas du tout.
Philippe, voyons.
Il n'osera pas vous checker. pâté de quiche. Hein, mais il la pensait très fort. Hein.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette quiche ensuite est devenue extrêmement populaire dans le monde entier, ben, essentiellement à cause ou grâce à l'exode des Lorrains lors des différentes guerres, et notamment celle de 1870. Ouais. Beaucoup de Lorrains sont partis avec la recette de la quiche sous le bras et sont allés montrer et élaborer ces quiches un petit peu partout.
Jean-Bernard, vous avez été élevé à la quiche lorraine.
Eh oui, la meilleure quiche du monde, c'est celle que ma mère fait. Elle continue à la faire dans les récipients que lui ont transmis sa mère et sa grand-mère. Ouais. C'est sacré chez nous.
Et c'est évidemment ça qui donne le goût. Le moule, moule familial qui a fait des centaines, voire des milliers de quiches, il est évidemment irremplaçable.
Fromage non plus.
Elle m'a dit avant l'émission, surtout dis à tes collègues, on met surtout pas de, à tes amis, qu'on met surtout pas de fromage dedans. Ouais, ça, c'est sacré.
Alors, il y a une autre recette chère au cœur de Marcel Proust qui nous vient de là-bas aussi.
Ah oui, la fameuse madeleine de Commercy. Vous savez, cette madeleine trempée dans un petit, dans une petite tasse de thé qui vous rappelle tous vos souvenirs, c'est devenu une expression. Alors, la madeleine de Commercy est née, comme son nom l'indique, à Commercy, qui est une petite ville de la Meuse, en 1755. Et là, il y a une belle histoire aussi. On revient à votre ami le duc et roi de Pologne, Stanislas Lewinsky. Il donne une réception à la maison. Ça doit être flamboyant, tout le gratin est là. Et il y a un drame qui se passe au moment de l'élaboration du repas. L'intendant et le cuisinier se chamaillent, à tel point que le cuisinier claque la porte, il s'en va et dit « débrouillez-vous sans moi ». Catastrophe, notamment le dessert n'a pas été prévu. Et là, une jeune cuisinière du nom de Madeleine Paulmier va voir le duc et lui dit « Écoutez, moi j'ai une recette fantastique, je la tiens de ma grand-mère, si vous voulez, je veux bien la faire ». Elle réalise cette recette, il n'y a pas le choix, tout le monde est subjugué par ses petites préparations et le duc, qui est franchement plutôt reconnaissant et gentleman, dans cette circonstance, donne le nom de madeleine à cette petite préparation pour faire un clin d'œil à cette cuisinière qui, évidemment,
c'est pour ça que les madeleines s'appellent les madeleines.
Exactement.
Ah, c'est marrant, ça.
Voilà, Nathalie.
On lui doit aussi le baba au rhum, parce qu'en fait, il avait plus trop de dents, le pauvre Stanislas. Alors bon, avec un kouglof local qu'il a trempé, imbibé avec de l'alcool. À l'époque, c'était pas du rhum d'ailleurs, c'était une liqueur de la Malaisie, quelque chose comme ça. Olivier connaît certainement mieux que moi. Enfin, une liqueur particulière qu'on ne connaît plus trop aujourd'hui. Il a imbibé et il a réussi à manger sans dents, juste avec ses petites gencives.
C'est devenu le baba au rhum par la suite. Et puis la madeleine, elle doit son essor au chemin de fer essentiellement, notamment à la ligne Strasbourg-Paris qui s'arrêtait à Commercy et les gens s'arrêtaient pour acheter des madeleines à ce moment-là.
Oui, exactement.
Ah mais dis donc, mais la Lorraine, c'est d'une richesse en histoire étonnante, je suis épaté. Merci beaucoup Olivier. Dans un instant, tous les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier, qui est notre guide préféré tout autour du monde.
Et le local de l'étape surtout.
Et le local de l'étape, donc il va nous dire où il faut aller pour ne pas se tromper en Lorraine. A tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous voyageons en Lorraine avec, mesdames, messieurs, un guide exceptionnel, puisque Jean-Bernard Carrier, l'homme qui a fait le tour du monde 77 fois, est lorrain. Donc autant vous dire que vous ne pouvez pas être dans meilleures mains pour
autant
découvrir.
Autant vous dire qu'il n'a pas préparé la chronique d'aujourd'hui, surtout.
Oui, bah, il n'est jamais chez lui, en fait. Bon, bah, à vous de jouer maintenant. Allez-y, top.
J'ai envie de vous dire l'endroit où je préfère décompresser. C'est une petite perle, ça se trouve dans les Vosges du Nord. C'est pas très connu, c'est pas les Vosges côté 88, près de Gérardmer ou la Bresse. Il faut aller tout au nord, aux confins de l'Alsace, de la Lorraine et l'Allemagne.
Ça, c'est votre endroit préféré?
C'est mon endroit pour déconnecter. C'est vraiment là où je me ressource complètement. Je vous conseille d'y aller. Il n'y a pas de gare TGV, ça se mérite pour y aller. On descend entre la gare la plus proche, c'est à Beach ou à Sarreguemines.
Comment?
Beach, ouais, c'est bien ça. Ou Sarreguemines. Et ensuite, il y a une petite route sinueuse qui vous emmène dans ce massif forestier. 400 mètres d'altitude. Il y a plein de forêts, de hêtres, de feuillus, de sapins. Il y a une atmosphère Comte de Grimm très romantique parce qu'il y a des châteaux en ruines qui sont posés sur des éperons de grès tout rouge. Et au pied de ces châteaux, il y a des petits lacs tout petits. Il y a l'étang de Hasselfurt, le lac de Haspelsheet. Et là, c'est vraiment des endroits complètement perdus. On se croirait dans un petit Canada, Philippe.
Faut y aller en amour, il ne faut pas y aller tout seul.
C'est romantique, voilà. En plus, ce que j'aime bien dans ces Vosges du Nord, c'est qu'il y a une culture encore très forte, c'est la culture du verre. Il y a encore des manufactures comme à Saint-Louis-les-Beach ou alors à Meisenthal où on souffle le verre, on fabrique le cristal à la main. C'est une industrie qui date de Louis XIV et il y a encore des traditions familiales très fortes. On fabrique encore le verre à la main et le cristal depuis, pour certaines familles, 6 ou 7 générations.
Ah, ça donne envie. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a toujours cette rivalité entre les deux grosses métropoles lorraines, c'est-à-dire Metz et Nancy.
On dit Metz et Nancy,
ah
bien
oui,
sûr.
Metz. Bah oui,
pardon,
voilà.
Pardon.
Bah écoutez, moi je suis de Moselle, donc c'est vrai que j'ai un petit avantage pour Metz, mais j'ai fait mes études à Nancy, donc je connais très bien les deux villes. Nancy, c'est génial pour la place Stanislas, avec ses magnifiques grilles en fer forgé recouvertes de dorures. C'est absolument exceptionnel. Il y a aussi, bien sûr, l'architecture Art Nouveau qu'on trouve à Nancy. Sur Metz, ce que j'aime beaucoup, c'est la différence de couleurs dans les quartiers. Tout le centre historique autour de la cathédrale de Metz, qui fête d'ailleurs ses 800 ans cette année, tout le centre historique, en fait, il a un aspect méditerranéen, Philippe, on s'en doute pas. Et ça tient à la couleur de la pierre de Jaumont. C'est une pierre calcaire qui a été extraite à une quinzaine de kilomètres de Metz. Cette pierre, elle a une couleur jaune dorée, comme la Mirabelle, ce qui donne un aspect très sud au centre de la ville de Metz. Et juste à côté, il y a le quartier de la gare, c'est le quartier impérial, qui lui est construit avec du grès rose des Vosges, qui est un quartier qui a été construit par les Allemands lorsqu'ils ont colonisé la Moselle. Il y a un quartier, c'est un côté un peu plus massif, mais c'est un changement d'ambiance. Les deux ambiances se complètent extrêmement bien.
Et il faut aller voir la gare de Metz, qui est l'une des plus longues gares de France.
Et l'une des plus belles. Elle a eu régulièrement des prix. C'est l'une des plus belles gares de France, Philippe.
Mais je ne la connais pas, celle-là.
Elle est magnifique. Ah oui. Je vous conseille d'y aller.
Et alors, est-ce qu'il y a une guéguerre vraiment entre les habitants de Nancy et les habitants
non,
de Metz?
Non, ce n'est plus le cas. Il y a 50 km. Moi, je conseille à tous les auditeurs et les auditrices de visiter les deux villes s'ils font un city break lors d'un week-end. Il y a 50 km, 30 minutes de voiture. C'est deux villes très complémentaires. Moi, je ne rentre pas dans la rivalité entre les deux. J'aime les deux villes, elles sont très complémentaires.
Ah oui, vous fuyez lâchement.
Espèce de Suisse.
Oui. Non, je veux pouvoir revenir sain et sauf dans ma région, mes amis.
Est-ce qu'il y a des monuments que vous voudriez mettre en valeur?
Ouais, alors c'est un peu un cri du cœur, Philippe. C'est une cause pas désespérée, mais une cause difficile. Mais je vais la défendre au cours de cette chronique. On va juste faire une toute petite pause musicale pour comprendre là où je veux en venir. On écoute ça.
On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Ça, Philippe, c'est la chanson de Bernard Lavilliers et les Madors. Elle nous arrache des larmes en Lorraine, cette chanson-là, parce qu'elle touche une fibre extrêmement puissante, extrêmement intime chez nous. C'est les hauts fourneaux, les cathédrales d'acier de la Lorraine. Nous avons ça dans les tripes, nous avons ça dans le sang. La fonte coule dans nos veines. Et cette chanson-là rend hommage à cette culture-là. Alors, beaucoup de hauts fourneaux, bien sûr, ont été démolis suite à l'arrêt de l'activité sidérurgique dans cette Lorraine-là. Mais il y en a un qui a été sauvegardé et il a été classé. C'est l'U4 à Uckange, que Bernard Lavilliers connaît bien, parce qu'il est venu chanter au pied de ce haut fourneau. L'U4 Uckange, un monstre de 80 mètres de haut, de la tubulure partout. Il restait dans son jus. Il était classé maintenant à l'inventaire des monuments historiques. Aujourd'hui, c'est un site ouvert à la visite. Le mieux, bien sûr, c'est d'y aller en compagnie d'un ancien sidérurgiste qui vous racontera
c'est
ce
possible,
passé.
C'est possible, ça ?
Mais tout à fait.
Comment
c'est...
on fait ?
Ah ben, il y a des visites organisées qui sont guidées. Le site est ouvert en ce moment, d'avril à octobre. Vous pouvez prendre rendez-vous et un ancien sidérurgiste pourra vous retransmettre ce que c'est que l'atmosphère des coulées. Si vous venez un jour, Philippe, je vous y emmènerai personnellement.
Ah ben avec plaisir.
Je vous emmènerai sur le plancher de coulée du U4. Je vous expliquerai ce que c'est que le débouchage lorsque la perforatrice, une immense perceuse de plusieurs tonnes, sectionne la fémorale du Moloch de 80 mètres de haut.
Là, vous avez vécu.
Vous avez une giclée de fonte. C'est un spectacle absolument phénoménal qui se produit sous vos yeux. Et vous pouvez ressentir cette atmosphère-là, ce torrent de fonte dans un vacarme effroyable. Les fondeurs, à l'époque, vous savez, les ethnies dont on parle, on avait aussi nos ethnies, ce sont les fondeurs, ce sont les toreros de la fonte, ce sont les maîtres du feu qui travaillent dans les forges de Vulcain. Ça, c'est une culture que nous avons en nous, on essaye de la faire partager, et c'est en train un petit peu de se développer un peu plus, grâce notamment à la préservation de cette U4, Uckange 4.
Eh bien, dis donc, parlez avec vos tripes.
Complètement, oui.
Ouais, j'ai presque peur.
On dirait Émile Zola, la façon dont il en parle, sauf que Zola parlait du charbon dans Germinal, mais c'est pareil.
Ben, c'est exactement ça, c'est cette culture du fer, on appelle ça les hommes du fer, et on a une expression chez nous pour dire qu'on a cette culture en nous, on dit avoir le fer dans la peau, Philippe.
Très bien.
Voilà.
Il faut dire que le patrimoine industriel, c'est un peu à la traîne chez nous en France.
Oui, il y a un petit retard, mais vous savez, c'est comme la Tour Eiffel à l'époque. Tout le monde trouvait ça moche et il fallait la démolir.
Et maintenant, c'est
le monument le plus connu au monde. Et puis plus près de nous, dans les années 70, le fameux musée d'Orsay, la gare d'Orsay. Tout le monde trouvait que c'était une verrue. On trouvait ça moche. C'était une verrue à Paris, à côté de la Seine. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus visités au monde et les plus adulés au monde, Philippe.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Bernard. On a envie d'aller en Lorraine maintenant, ça y est.
Mais avec lui.
Ouais, avec lui.
Je vous y emmène volontiers. Mes amis.
Merci les amis pour ces jolies découvertes. On reste ensemble et on attache sa ceinture car en deuxième heure, nous allons partir encore plus loin. C'est le grand voyage comme chaque jour sur Europe 1, juste pour le plaisir de rêver, de s'imaginer très très loin, Je vous emmène dans un instant, juste après le flash, dans la Pampa, la vraie, dans la Cordillère des Andes, en Patagonie, chez les Indiens Mapuche, et au pied des incroyables chutes d'Iguassu. Nous serons en Argentine. A tout de suite. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, le flash Marguerite Lefebvre.
Il y a d'un côté le gouvernement qui salue un accord historique pour le secteur de la santé et puis de l'autre, certains syndicats qui, eux, dénoncent des avancées mineures. C'est le cas notamment du syndicat Action Praticien Hôpital, pour qui les jeunes médecins sont les sacrifiés de cet accord. Ils appellent à se rassembler demain à 14h. Une manifestation de soignants est prévue à Paris. Les autres soignants, ceux qui acceptent l'accord et les applaudissements du gouvernement, ils seront reçus ce soir au Grand Palais. Ils seront par ailleurs, pour certains, présents demain place de la Concorde à Paris lors des cérémonies du 14 juillet. Au moment de signer cet accord du Ségur, le Premier ministre Jean Castex a rappelé d'une phrase que l'épidémie n'était pas terminée, loin de là. On sait que le gouvernement envisage de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. On apprend cet après-midi que des malades du Covid et certains professionnels de santé ont saisi le Conseil d'État pour rendre cette mesure obligatoire le plus rapidement possible. Puis signalons qu'en Mayenne, les dépistages se poursuivent après la recrudescence de 4 contaminations. Les autorités invitent les habitants à se faire tester depuis ce matin. En tout, 300 000 tests vont être menés. Le nombre de morts sur les routes continue de baisser, moins 29% de mortalité au mois de juin, dans un contexte de reprise très progressive des déplacements. Dans les Deux-Sèvres, une soixantaine de gendarmes ont été envoyés en renfort après plusieurs rixes à Bressuire, dans le nord du département. 7 gendarmes ont été blessés, dont la moitié le week-end dernier. Et puis dans le Var, un adolescent de 16 ans a été tué hier dans des affrontements entre bandes armées. Certains jeunes étaient équipés de couteaux et de battes de baseball. La victime était originaire de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. À Saint-Étienne, les policiers ont libéré les accès du site de Loomis, cette société de convoyage de fonds. Les salariés ont bloqué les accès depuis ce matin. Aucun fourgon blindé ne pouvait entrer ni sortir pour aller approvisionner les banques. Le site de Saint-Étienne est donc de nouveau accessible. En revanche, pas celui de la Talaudière dans la Loire. Les convoyeurs dénoncent le licenciement jugé abusif de l'un des leurs. Les ministres européens des Affaires étrangères sont réunis en ce moment à Bruxelles. Ils vont tenter de se mettre d'accord sur le plan de relance, les 750 milliards d'euros que propose la Commission européenne. Ils vont tenter de préparer le terrain avant l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement. Ce sera vendredi et samedi. Et puis en Pologne, l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, ne revient pas sur le résultat de l'élection présidentielle. L'OSCE avait émis des doutes ce midi après la victoire sur le film du président sortant, le conservateur Andrzej Duda. Le rôle de la télévision publique, notamment, était en cause. Aucun recours finalement ne sera déposé. Le résultat de l'élection est bel et bien validé. Enfin, en football, c'est un sérieux camouflet pour l'UEFA. L'instance du foot européen avait décidé de sanctionner Manchester City, de priver le club de compétitions européennes pour les 2 prochaines saisons pour non-respect du fair-play financier. Eh bien, le tribunal arbitral du sport a retoqué ce matin cette sanction. Manchester pourra bien défendre ses couleurs à la rentrée. Le club qui, par ailleurs, est toujours en lice pour la Ligue des champions de cette saison. La compétition reprendra fin août sous la forme d'un mini-tournoi à Lisbonne. 17h et bientôt 3 minutes sur Europe 1. Et c'est le retour de Philippe Googler.
Merci Marguerite Lefebvre. Prochain rendez-vous avec l'info à 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, c'est le moment de respirer, de lâcher prise et tout simplement de partir au bout du monde, maintenant.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Alors je voudrais vous parler d'un des trains pas comme les autres les plus spectaculaires de la planète. C'est un train qui monte très très haut en Argentine, dans la Cordillère des Andes. Il monte tellement haut qu'on l'appelle là-bas le train des nuages. Alors je dois vous avouer que l'arrivée sur le quai est un peu désappointante, disons. Quand on s'apprête à prendre un des trains les plus célèbres du monde, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour le voir, et bien on a envie d'être ébloui au premier coup d'œil. Ben pas vraiment. C'est plutôt look de train de banlieue, bon état, nickel, et couleur criarde, vous voyez, mais ça fait pas vraiment rêver. Donc voilà, on y va, bon, on est là, on est parti. Et en plus de ça, tout est très organisé. Alors, vous avez des places numérotées, des annonces répétées dans plusieurs langues au micro, les hôtesses sont souriantes. Un peu trop pro à mon goût, parce que quand on est dans les Andes, on a envie d'un petit tortillard couleur locale, un peu dans son jus. et pas d'un train avec des écrans vidéo qui vous diffusent des promos. Mais bon, j'y suis un poil déçu, mais les autres passagers ont l'air contents. Et surtout, il y a énormément d'Argentins. Donc je me dis que si les gens du pays sont là, c'est que tout de même, il doit y avoir quelque chose à voir qui vaut le coup. Donc on part, roule. Et assez vite, je me rends compte que, quand même, on franchit des ponts, des tunnels, des zigzags, des boucles. Ce train est en fait une prouesse technique. Franchir les Andes, à l'époque où il a été construit, dans les années 20, c'était un défi énorme. Le train grimpe, grimpe encore, l'altitude s'élève et les paysages changent très rapidement, du tout au tout, et mon humeur aussi, parce que le spectacle est tout simplement extraordinaire. Vous franchissez des déserts avec des vallées pleines de cactus comme ça qui passent autour du train. Puis tout à coup, c'est des montagnes aux roches multicolores avec des dégradés d'ocre, de brun, au loin des sommets enneigés. Le parcours est magnifique. Vous n'avez pas envie d'en perdre une miette. Et en fait, la beauté, elle est à l'extérieur du train. Le train lui-même n'a aucune importance. Alors, je vous donne un petit tuyau. Si un jour, vous allez prendre ce train, allez vite, 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 dès le début, réserver une table au wagon-restaurant en choisissant une table bien placée le long de la fenêtre pour assister au spectacle tout en déjeunant. C'est un moment inoubliable. Monte, ça dure 7 heures, c'est un long voyage, on passe de 1000 mètres d'altitude à 4000 mètres. Et c'est pas sans conséquence. Plus on monte, plus la pression atmosphérique est faible. Et le corps, petit à petit, va manquer d'oxygène. Donc normalement, on monte pas à ces altitudes sans un minimum de précautions. Et bien dans ce train, tout est prévu. Tout au bout du convoi, il y a une voiture infirmerie. Une infirmerie tout entière consacrée au mal d'altitude avec masque à oxygène à disposition des voyageurs. Donc si vous vous sentez un peu faible, hop, un petit coup d'oxygène et vous êtes remonté. Il y a du personnel de santé en permanence et il y a même un infirmier qui me dira qu'environ 10% des passagers viennent à l'infirmerie et qu'en cas d'urgence, pour les pathologies plus compliquées, parce que parfois il y a des conséquences sévères, il y a une ambulance qui suit le train en permanence. Alors je ne croyais pas trop, mais c'est vrai, j'avais pas fait attention en regardant par la fenêtre sur une route parallèle. J'aperçois une ambulance qui roule à la même vitesse que le train. C'est assez fou. Alors le voyage finalement passe très vite et le clou du spectacle approche. Le terminus de la balade, c'est un viaduc magnifique à 4182 mètres d'altitude. Le viaduc de la Polvoria, c'est un ouvrage sublime, tout en courbe qui surplombe une vallée de rocailles un peu desséchées avec quelques rares broussailles, tout ça inondé de la lumière assez crue des hautes altitudes, vous savez. Le train s'arrête à proximité du pont, tout le monde sort, et que font spontanément les passagers sans se concerter? Eh bien, ils se rassemblent en un groupe, main sur le cœur, et ils se mettent à chanter l'hymne argentin. Eh bien, tout ça, les paysages incroyables, la montagne, la bonne ambiance, l'oxygène qui manque un peu, le souffle court et cette fierté pour leur pays des voyageurs, eh bien là, je vous promets, vous êtes vraiment en Argentine.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
On poursuit nos aventures dans les profondeurs et les hauteurs de l'Argentine avec toute la petite bande de joyeux voyageurs. Dans un instant, ce sera l'Argentine côté grand spectacle, côté gastronomie et puis les bons plans aussi pour y aller. A tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait ? Tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et nous sommes très très loin, on est en Argentine. Au bout du monde. Jean-Bernard, juste pour repréciser les choses, l'Argentine, c'est...
Alors l'Argentine, c'est en Amérique du Sud, ouais. En dessous du Brésil. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pays qui est gigantesque, qui fait 5 fois la France.
C'est énorme.
Énorme. Et donc, du nord au sud, il y a 3700 kilomètres. C'est pour vous dire la taille du pays.
Ça fait quoi comme distance,
à peu
près ?
En gros, c'est comme si de Brest, vous allez jusqu'à Moscou. Vous voyez la taille du pays. Donc, on y circule plutôt en avion.
C'est dingue. Et alors, il y a des paysages extrêmement variés. C'est ça que moi, que j'aime en Argentine.
C'est ça qui est dingue, parce que tout au nord, vous avez des paysages tropicaux. Et plus vous descendez, plus ça se refroidit. Vous allez jusqu'à Ushuaïa, tout au sud, et c'est presque subarctique, préarctique, on va dire. Donc, il y a vraiment tous les climats. Et sur la gauche, il y a la cordillère des Andes avec la chaîne des Andes et la Aconcagua qui culmine à 6900 mètres d'altitude. Donc, vous voyez un petit peu.
C'est tout un monde, l'Argentine.
Et la façade atlantique qui est sur la droite, celle-ci. Voilà.
Vous n'avez pas encore bien répété la droite et la gauche.
Un petit problème de latéralisation, on va dire.
C'est la Lorraine.
Il voulait vivre en Amérique du Sud, c'était son rêve. Il s'est installé en Patagonie, il a osé franchir le cap, lui. Il s'est senti là-bas comme un poisson dans l'eau immédiatement. Nous sommes avec lui en direct depuis la Patagonie, à Bariloche, très exactement, qui est une très jolie ville. C'est un lieu de vacances des Argentins. Boris Choquet, fondateur de l'agence de voyage Boris Patagonia. Bonjour.
Bonjour Philippe et bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Il est quelle heure en Argentine là ?
Ici, il est midi 10.
Ah, c'est
bien. Il y a 5 heures de moins.
Et qu'est-ce que vous voyez là, de par votre fenêtre ?
Ah, bah alors là, vous allez être un petit peu jaloux. Alors, de ma fenêtre, moi, je suis au bord du lac Nahuelhuapi, qui est un grand lac en Patagonie. Donc, je vois l'immensité du lac, pas un bateau, et en face, la cordillère des Andes, complètement enneigée. Parce qu'ici, il a beaucoup, beaucoup neigé. Aujourd'hui, il fait très beau.
Mais c'est l'hiver chez vous, là ?
Ouais, c'est l'hiver, plein hiver. Hémisphère sud, donc saison inversée.
Donc il fait quelle température là ?
Là, ce matin il faisait moins 3 degrés, donc là on doit être à 0 degré. Voilà.
Oui, non, mais ça on vous le laisse.
On n'est pas jaloux du tout, hein. Vous nous aviez dit que vous serez jaloux, mais alors c'est pas du tout.
Une petite sortie ski quand même, Philippe, ça pourrait faire.
Exactement, parce qu'ici on fait du ski, on fait plein d'activités, et surtout ce qui est le grand luxe d'ici, c'est qu'il n'y a personne. C'est qu'on est seul au monde et donc on a les montagnes pour nous, le plan d'eau pour nous, c'est exceptionnel.
On parle énormément de la Patagonie, puisque Bariloche est déjà en Patagonie même, je pense.
C'est le nord de la Patagonie.
Qu'est-ce que c'est comme paysage, la Patagonie, exactement ?
Alors la Patagonie, pour les gens qui ne connaissent pas, je vais essayer de résumer ça brièvement, c'est une région grandiose, sauvage, pour moi c'est une fin du monde. Pour moi c'est un peu ce qu'on peut se représenter, c'est la nature y est un peu comme au matin du monde. Voilà. Et on a vraiment l'impression que les trois règnes, animal, végétal, minéral, ont comme signé un pacte pour vraiment mieux se sublimer. Donc c'est pour moi en fait c'est l'ultime refuge de notre planète pour certains hommes, mais surtout aussi pour des animaux. Donc c'est une région extrêmement sauvage et elle offre des paysages exceptionnels, donc de montagnes couvertes de glaciers, de steppes, de forêts, de lacs. Et le littoral est très déchiqueté, il y a aussi des fjords. Donc c'est vraiment des détroits, c'est très peu habité, hein. Il y a moins d'habitants au kilomètre carré en Patagonie. Donc c'est... voilà, c'est une région exceptionnelle et je pense sincèrement que c'est c'est vraiment l'une des régions du monde la plus préservée, due à son éloignement géographique et aussi à ses conditions un peu extrêmes, conditions météorologiques qui sont pour habiter ici, il faut vraiment avoir envie. Voilà, c'est pas on vient pas ici entre guillemets pour
Et alors, ce que vous nous avez suggéré dans tout ce que vous avez dit, c'est que c'est aussi le spectacle des animaux. Je crois que ça vous est arrivé là-bas de nager avec les baleines, c'est ça ?
Alors oui, ce qu'il faut voir, c'est que donc sur toute la côte est, côte atlantique, donc il y a énormément d'animaux marins. Et effectivement, il y a beaucoup de baleines. Donc il y a un endroit qui s'appelle la péninsule Valdez, qui est assez connu ici, où il y a énormément de baleines. Elles viennent tous les ans pour donner bas. Donc, c'est elles qui ont choisi cet endroit-là. C'est exceptionnel. Et moi, j'ai eu la chance de faire du snorkeling avec une baleine.
Mais c'est énorme, une baleine. Comment vous pouvez faire du snorkeling à côté d'une baleine ? Elle vous renverse, elle vous bouscule.
Elle vous avale.
Elle vous avale.
Alors, bon, Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire normalement, parce que c'est une région complètement préservée. Et voilà, moi, j'ai pu le faire parce que j'ai des amis sur place, voilà, avec des amis pêcheurs, on peut le faire. Et donc, c'était des conditions assez extrêmes. Je vous cache pas que j'avais le cœur qui battait fort. Mais la baleine, non, la baleine, en fait, ce qui est très important, mais ça, c'est général avec le monde animal, c'est qu'il faut toujours laisser la baleine s'approcher, enfin, l'animal sauvage s'approcher de vous. C'est jamais l'inverse. Donc, si elle s'approche et qu'elle est d'accord, entre guillemets, pour qu'il y ait une interaction, et donc, il y a eu interaction. Et donc, effectivement, mais là, non, la baleine ne vous avale pas, hein. On va pas vous donner un coup de queue. C'est, sauf c'est si vraiment vous la poursuivez, entre guillemets.
Ah, vous finissez pas comme Pinocchio, quoi.
Non, sinon je serais plus là. non, voilà. Mais
c'est impressionnant. Voilà, ça doit être vraiment un moment absolument impressionnant. Et alors, il y a une chose que j'aimerais que vous évoquiez, c'est aussi la pampa, parce que en France, quand on dit on ira dans la pampa, ça veut dire on ira dans un endroit éloigné où il y a pas grand chose, mais on sait pas trop où c'est. Mais la pampa en Argentine, c'est un lieu assez précis, hein. Ce sont les plaines fertiles plutôt plates où on élève du bétail, et il y a là-bas les gauchos. Et ça aussi, c'est assez mythique, les gauchos. C'est un peu les éleveurs, les cow-boys argentins, c'est ça?
Voilà, c'est exactement ça. C'est des hommes qui vivent, ça c'est assez exceptionnel à voir, vraiment à l'état sauvage, en harmonie totale avec la nature. Et ils ont, c'est des gens qui évoluent dans un territoire vraiment sans limite. On ne voit pas la fin de leur territoire, vraiment, hein. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans la Pampa, enfin, comme dans la Patagonie de manière générale, ce sont des estancias qui sont, qui se touchent. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque estancia, une taille moyenne d'une estancia ici, c'est 60 000 hectares. Ça, c'est une taille moyenne.
Une estancia, c'est une ferme.
Une estancia qui peut faire 120 000. Voilà, on va dire que c'est une ferme, mais avec des territoires vraiment, je vous dis, à perte de vue. Et donc, c'est des hommes, c'est le cow-boy, on va dire, argentin. Et voilà, qui ont des conditions de vie assez rudes.
Qui ont un caractère bien trempé en général.
C'est vraiment des. Voilà, bien trempé. Ils se baladent tous avec des couteaux. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont en contact avec les éléments et qui ont vraiment une vie singulière et admirable.
Et assez libre, hein. C'est des hommes qui très vite revendiquent leur liberté. Exactement. Et on sent que c'est pas du genre à se laisser faire, il y a un vrai caractère, c'est des rudes, quoi. Et c'est très très plaisant aussi de les rencontrer. On continue avec vous dans un instant, restez en ligne depuis la Patagonie, et nous irons également visiter le nord de l'Argentine, parce que comme vous le disiez, ce sont des paysages de tout type, l'Argentine. Et là-bas, c'est plus tropical, avec les chutes d'eau incroyables. Pour moi, ce sont les plus belles de la planète. Les chutes d'Iguassou, on va s'en parler dans un instant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours une destination lointaine, juste pour rêver, aujourd'hui un pays fabuleux qui à lui seul mériterait plusieurs voyages, l'Argentine.
Europe 1, Philippe Googler.
En Argentine, il y a un endroit vraiment exceptionnel. Un de ces paysages, vous savez, qui vous marque pour toujours, que vous raconterez à vos enfants, à vos petits-enfants, vous les saoulerez même avec ça. C'est Iguassu, les chutes d'Iguassu. À mes yeux, ce sont les plus époustouflantes de la planète. En fait, Iguassu, c'est pas une chute. Ce sont plus de 200 chutes vertigineuses en pleine forêt tropicale, sur un front de 3 km. Vous vous imaginez dans une forêt tropicale, avec le vert partout, le bruit des animaux, et puis, tout à coup, tout autour de vous, 200 chutes, d'une puissance phénoménale, avec le son qui va avec. C'est impressionnant, ça vous prend aux tripes. Et puis surtout, les milliards de petites gouttelettes qui flottent dans l'atmosphère tout autour et qui viennent détremper vos vêtements. Et c'est pas grave, parce qu'il fait très chaud, donc ça fait plutôt du bien. Ce qui est véritablement fascinant dans cet endroit, c'est au-delà de la puissance et de la hauteur des chutes, c'est l'ambiance qui se dégage de ce lieu. Il y a une atmosphère, vous savez, de création du monde. Il y a quelque chose de mystique qui flotte dans l'air.
Et si on partait sur Europe 1? 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Ça, c'est pour le nord de l'Argentine, là où il y a le climat tropical, nord-est, les chutes d'Iguassou. Mais l'Argentine, vous le savez, c'est immense, c'est presque 6 fois la France. Et quand vous passez au sud, en Patagonie, vous arrivez dans un tout autre pays. Nous sommes avec Boris au téléphone, qui est installé en Patagonie. Quel est pour vous le spot absolu, l'incontournable en Patagonie?
Alors pour moi, bah le spot incontournable, c'est le glacier Pierito Moreno.
Oui.
Donc pour deux raisons majeures. Déjà parce que bon, c'est un glacier, c'est unique au monde. Il y a vraiment qu'en Argentine qu'on peut voir des glaciers de cette taille-là sur notre planète. Et la particularité de ce glacier-là, c'est qu'il est facile d'accès. Alors, il faut pas croire, c'est pas le plus grand, mais c'est le plus impressionnant parce qu'on peut vraiment s'en approcher facilement. Alors, juste en chiffres pour avoir conscience. Donc, c'est un mur de glace qui fait 7 km de long, 100 mètres de haut, et la surface du glacier fait 250 km², c'est-à-dire 2,5 fois la taille de Paris. Voilà.
C'est dingue. C'est un spectacle incroyable. Incroyable. Voilà. Ça fait partie aussi de ces spectacles qui vous laissent sans voix.
Exactement. Moi, j'y vais tous les ans et tous les ans, je suis bouche bée. C'est un glacier qui est en mouvement perpétuel. Donc, on entend le bruit de la glace. Il y a des blocs de glace qui tombent. C'est exceptionnel. Et un bleu émeraude, c'est vraiment exceptionnel. C'est unique au monde. Et il faut vraiment y aller. Enfin, moi, je dis toujours, c'est un site qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie. Au moins, parce que si on peut y aller plusieurs fois, c'est bien. Mais au moins une fois, parce que c'est exceptionnel.
Est-ce qu'ils font aussi, est-ce qu'il est aussi en danger, puisqu'on en a parlé du Groenland la semaine dernière?
Non, celui-là non, parce que la particularité de ce glacier-là, c'est le seul en fait qui avance. Donc en fait, il fait du surplace parce qu'il avance et il se casse parce qu'il bute sur une péninsule. Donc heureusement, entre guillemets, c'est le glacier le plus célèbre de Patagonie et en même temps, c'est le seul qui recule pas. Donc voilà, il fait du surplace en fait.
Et toujours avec cette même, on a envie d'aller toucher, d'aller se glisser dessous, parce qu'évidemment, comme ça fond, que ça bouge, il y a des espaces qui se créent sous la glace, mais il faut surtout pas faire ça, ce serait hyper dangereux.
Bah oui, bien sûr, oui, parce que quand les blocs de glace tombent, ça fait un espèce de, comment dire, une vague qui peut être dangereuse. Donc, il faut éviter de s'en approcher trop proche en bateau.
Ouais.
Donc voilà, mais c'est un spectacle.
Ouais, très, très beau spectacle. Alors, quand vous étiez en France, Boris, vous étiez musicien, vous jouiez de la basse dans des groupes de rock. De quoi vous jouez en Argentine?
Alors, voilà, j'ai donc changé de vie, donc j'ai aussi changé d'instrument ici. Maintenant, je joue du charango et je chante aussi. Mais l'instrument, c'est le charango.
C'est ce qu'on entend,
donc,
là?
C'est une petite guitare, exactement. Donc, c'est une petite guitare andine, en fait. Et j'ai choisi cet instrument-là parce que vu que avec mon travail, je voyage énormément, c'est une petite guitare que je peux prendre avec moi et facilement.
C'est super. Et ça, c'est vous qui avez composé ça?
Voilà, ouais, j'ai fait 2 CD. Et en fait, avec tous ces voyages que j'ai faits, je me suis tellement... En fait, c'était une quête intérieure, on va dire. J'étais vraiment en recherche de liberté, d'être seul avec moi-même. Je voulais vraiment rentrer dans mon moi intérieur, on va dire. Et en Argentine, en Patagonie, j'étais comme un poisson dans l'eau, comme vous avez dit en introduction. Et je me suis tellement senti bien, libre et naturel, on va dire, que ça a donné source à beaucoup de moments d'inspiration, donc de chansons, de paroles, de musique.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Boris. Voilà. On sent votre bonheur là-bas. Ça passe dans votre voix. Merci beaucoup, Boris.
Merci.
Choqué de nous avoir raconté votre Argentine sur ce pays qui est donc immense, extrêmement varié. Et puis les Argentins aussi à découvrir. Gros caractère souvent, hein, passionnant. Dans un instant, on poursuit l'aventure en Patagonie. Nous allons faire un tour chez les Indiens Mapuche et à nouveau changer complètement d'univers. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 jusqu'à 18h comme chaque jour, un grand voyage. Nous sommes en Argentine, un pays immense avec des communautés au caractère très, très fort, très marqué. Nous sommes en ligne avec Mathieu Orcel qui est réalisateur franco-argentin. Il a vécu 18 ans en Argentine, dont 4 ans en immersion totale chez les Mapuche, qui est un peuple autochtone de Patagonie. Bonjour Mathieu.
Bonjour Philippe.
Alors les Mapuche, c'est un peu les... Vous me dites si je dis une énormité, hein, mais pour moi c'est un peu les Indiens comme on les imagine, c'est-à-dire des Indiens avec des chevaux dans des espaces infinis, dans la steppe. C'est ça, à quoi ça ressemble leur univers?
Oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, les Mapuche, ils vivent vraiment aux confins du Chili et de l'Argentine, donc vraiment au sud de l'Amérique du Sud. Et en fait, ce peuple, avant que les Espagnols arrivent vers eux, ils ont récupéré les chevaux qui n'existaient pas en Amérique latine, avant l'arrivée des Espagnols. Et ces chevaux sauvages qui se sont échappés pendant les conquêtes, en fait, et qui ont formé des troupeaux qui se sont reproduits, sont descendus dans le sud du continent. Et les Mapuche ont récupéré les chevaux, et c'est avec les chevaux qu'ils ont vaincu les Espagnols, c'est-à-dire qu'ils ont résisté à la conquête espagnole grâce aux chevaux en fait, qui s'étaient perdus pendant les grandes batailles des Espagnols. Donc effectivement, il y a un côté...
Ah, c'est incroyable cette histoire
hein. Ouais, il y a un côté semi-nomade, il y a un côté cheval, et c'est vrai que là où la légende, j'ai envie de dire, ou le mythe se modifie un petit peu, c'est que les Mapuche en fait, ont été conquis finalement il y a 150 ans, et c'est très récent pour les peuples autochtones en Amérique latine, ce qui fait qu'en fait ils ont aussi une culture très moderne, très développée, et leur langue, qui est un peu le pivot de leur culture, on le voit bien, elle est très évolutive, elle a su s'adapter à la modernité. C'est là leur force en fait. C'est des gens qui ont toujours été dans la.
Quand vous dites que la langue a su s'adapter à la modernité, comment on dit par exemple ordinateur en Mapuche?
Alors ordinateur, on va dire Lonko Wiliwe. Donc Lonko Wiliwe, Lonko c'est la tête. Et le Wiliwe, c'est le lieu de l'écriture, c'est le stylo, donc on va dire le stylo de la tête.
Ah, c'est marrant.
Si on veut dire voiture, on va dire Winkakawei, le cheval du blanc. Si on veut dire avion, on va dire Futa Winkakawei. Futa Winkakawei, c'est le grand cheval du blanc. Donc il y a plein de manières d'inventer des mots. C'est une langue assez ludique, agglutinante. Et c'est vrai que moi, en immersion, j'ai appris à la parler, mais notamment, en fait, c'est surtout avec les anciens et les anciennes, surtout, parce que c'est une société qui est quand même assez matriarcale. Encore aujourd'hui, et notamment dans l'autorité religieuse. Et l'autorité religieuse chez eux, c'est une religion assez spirituelle, mais qui est quand même basée sur la nature et sur les rêves.
Oui, parce que en fait, quand vous dites autorité religieuse, j'imagine que vous voulez parler des guérisseuses qui ont un rôle très très important chez les Mapuche.
Oui, tout à fait. En fait, les guérisseuses, elles ont un rôle fondamental dans la société Mapuche. Elles sont à la fois une autorité très importante. Donc au Chili, ça va être les Machi, et côté argentin, c'est les Piancuché. La petite nuance, c'est qu'en Argentine, elles sont vraiment basées sur les rêves. Côté chilien, ça va être plutôt sur la transe. Mais en gros, elles vont rêver des événements, elles vont pouvoir nous prévenir d'événements à venir en fonction des rêves qu'elles font.
C'est-à-dire que ce sont comme des voyantes?
Alors il y a une forme de voyance, c'est vrai que ce sont en quelque sorte des voyantes, mais c'est pas de la voyance occidentale comme on la connaît aujourd'hui, l'horoscope ou des prévisions anecdotiques, c'est vraiment de la voyance sur les rêves. Et en fait, il y a une forme dans cette voyance sur les rêves d'hypnose, de psychologie et de transe.
En fait, alors je cache pas que j'ai pas compris comment on projette de manière hypnotique des choses dans les rêves, je sais pas.
Vous savez pas faire. Alors en fait, elles imaginent, non. Elles sont en contact avec une réalité, donc des rêves, c'est un monde particulier, c'est le monde d'au-dessus, c'est le Wenumapu, donc le monde du haut. Et y a un animal particulièrement, le puma, qui traverse tous ces mondes. Il y a trois mondes hein, dans le monde Mapuche, c'est le Wenumapu, le monde d'en haut, le monde des rêves, le monde qu'on vit présentement, qui est le monde du milieu, et le monde d'en dessous qui sert à se réincarner. Donc l'hypnose, en fait, elle rentre dans le fait de rentrer en contact avec un monde qu'on connaît pas, qui est inconscient, donc pour la majorité des habitants de ce monde-là, sauf pour la guérisseuse. Et la guérisseuse va mettre en contact des forces surnaturelles avec la personne qui est en face d'elle. Et c'est vrai que moi, bon, je l'ai vécu à la première personne, puisqu'en fait, il y a une guérisseuse, après 3 ans d'immersion, grosso modo, qui m'a convoqué pour me donner mon chant sacré. Alors, le chant sacré, c'est le Taïl. Le Taïl, c'est un chant qui procède, on va dire, du lignage familial, c'est-à-dire de la famille ancestrale de chaque communauté. Et la guérisseuse va donner ce chant, va révéler ce chant à toutes les personnes qu'elle considère avoir besoin d'une protection. Et en fait, quand je suis arrivé, qu'elle m'avait convoqué, elle m'a dit, voilà, j'ai rêvé de ta mère. Elle m'a décrit ma mère, qui évidemment était en France et qu'elle n'avait jamais vue, pas de photo, j'en avais très peu parlé. Et elle m'a décrit ma mère et elle m'a dit, ma mère m'a demandé de te protéger et de te donner ton chant sacré. Et c'est un chant, en fait, c'est comme un mantra, c'est un chant qu'on va répéter pour chaque voyage, qu'on va mentaliser devant chaque situation où on a besoin de protection.
C'est-à-dire que chaque fois que vous prenez l'avion ou que vous êtes dans une situation difficile, Vous avez ce chant dans la tête et vous l'interprétez pour vous protéger.
Ouais, absolument. On va rentrer dans l'avion avant que ça décolle. On va chanter ce mantra qu'on va répéter 4 fois. 4 fois. C'est-à-dire tout dans le monde mapuche, tout fonctionne par 4. Leur territoire s'appelle.
Et ça vous protège vraiment? Vous l'avez constaté?
Alors, est-ce que j'ai pu constater une protection? Non. Ce qui est sûr, c'est que ça. Ce qui est évident, en fait, c'est que de manière interne, ça répond à un sentiment religieux. Et on a tous un sentiment religieux. Même les athées, ils sont convaincus, ils croient qu'ils ne croient à rien. Donc, on a tous besoin, on a tous une case du sentiment religieux, on a tous besoin d'un gris-gris, on a tous besoin de quelque chose comme ça. Et cette manière de faire, en fait, elle est beaucoup plus forte parce qu'elle est liée à la nature, elle est liée à un territoire, à une culture qui n'est pas du tout basée sur la superstition. C'est plutôt une manière de dire « j'appartiens à cette communauté, je chante ce chant parce que je veux appeler mes ancêtres, je veux appeler mes morts et qu'ils m'entendent et qu'ils me protègent. »
Pour conclure, les Mapuches qui vivent là-bas dans ces espaces infinis, dans ces steppes immenses, qu'est-ce que vous, en quelques mots, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, qu'est-ce qu'ils vous ont appris de la vie?
Je dirais que ils m'ont appris à voir le monde différemment. Ils m'ont appris à remettre le mystique au centre de notre expérience au monde. Et nous, les Occidentaux, les Européens, on a perdu cette habitude. Et il y a des bons côtés à ça, évidemment. Mais on a perdu cette habitude du magique dans la vie quotidienne. Et pour les Mapuches, chaque événement est magique. Chaque événement est un point important où on va aller demander à la guérisseuse de l'interpréter. Et c'est aussi surtout le sens de la communauté. C'est-à-dire tout est communautaire dans le sens où nous sommes tous interdépendants, non seulement les uns des autres, les familles les unes des autres, mais aussi nous sommes dépendants de tout le monde animal, du monde végétal, du monde animal. Bref, on est tous interdépendants. Et donc il y a cette conscience un peu, j'ai envie de dire spinoziste, que nous sommes qu'une toute petite partie du grand tout.
Merci beaucoup Mathieu Hercel, vous nous faites voyager, vous savez.
Merci à vous Philippe.
C'était un plaisir. Je rappelle le titre de votre film Pour les pauvres des pierres, filmé à l'occasion de Transhumance Mapuche dans la cordillère des Andes. Dans un instant, nous poursuivrons notre aventure en Argentine, côté saveur cette fois, avec Olivier Pouls. Alors j'imagine que ça ne va pas être une séquence végétarienne, hein, parce que c'est le pays de la viande. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes au bout du monde, en Argentine, et nous voyageons avec Olivier Pouls maintenant. Moi, quand je vois Argentine, je vois immédiatement un énorme morceau de viande rôti au barbecue.
Oh, heureux
grillé.
Homme! Ah,
mais
moi
oui,
aussi.
Mais oui.
Et là, je vous avoue qu'à 17h40, on risque d'avoir sérieusement faim, les amis. Parce que, effectivement, l'emblème de la gastronomie argentine, c'est la viande. Et j'ai même envie de dire la viande de bœuf.
Mais est-ce que c'est justifié?
Oui, c'est justifié d'abord parce qu'il y a une grande histoire, une grande tradition. On parlait tout à l'heure de ces étendues absolument énormes, immenses de la Patagonie, de ces fermes à perte de vue dans lesquelles des troupeaux de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de têtes de bétail vont aller paître une bonne herbe bien grasse qui va leur donner tout leur caractère. Parce que ce qui est fondamental pour avoir une bonne viande, c'est la nourriture, c'est ce que va manger l'animal. Et là-bas, de l'herbe, il y en a à perte de vue.
Dans la pampa.
Et ce sont des animaux qui ne mangent pratiquement pas de fourrage. Et c'est ce qui fait la grande différence avec nos animaux à nous, qui en hiver sont bien contraints de manger du fourrage, de la paille, parce qu'il n'y a pas d'herbe dans les prairies. Et là-bas, il y a de l'herbe dans les prairies presque toute l'année. Et donc ça change énormément de choses. Il y a un vrai savoir-faire. Et puis, franchement, ils aiment ça. Les Argentins sont dingues de viande. Ouais. Une viande qu'ils cuisent à l'asado, le fameux barbecue, avec des découpes particulières, qui sont plus des découpes qui ressemblent aux découpes américaines, par exemple le T-bone, qui est une découpe spéciale qu'on ne trouve pas chez nous. Mais c'est une viande qui est juteuse, extrêmement tendre. Si on doit lui reconnaître un petit défaut, peut-être, c'est qu'elle a peut-être un peu moins de goût que nos meilleures viandes à nous. Mais elle compense par une texture vraiment admirable. Alors, je ne sais pas si vous nous imaginez là, au milieu de la pampa, avec un grand barbecue, braises, et puis une entrecôte taillée bien épaisse ou une côte de bœuf. Ouais.
Vous l'avez fait ça, Jean-Bernard?
Ah, c'est l'un des moments clés, un moment fort d'un voyage en Argentine, ça.
Oui, c'est de se retrouver. Vous savez que ce sont parmi les plus gros mangeurs de viande au monde, les Argentins.
Alors moi, je trouve que c'est quand même un petit problème léger. Quand on voyage en Argentine longtemps, si vous voulez,
on mange que ça.
On mange que ça. Ah, et donc, quand vous mangez de la viande midi et soir, ouais. au bout d'un moment, il y a peu de légumes.
Vous avez les cornes qui commencent à pousser.
Vous avez les cornes qui poussent, et c'est dangereux. Et surtout, c'est dur d'avoir des légumes, même en accompagnement. Ouais. Vous avez des patates.
Ah, c'est les patates.
Et donc, au bout d'un moment, l'estomac, il a du mal.
Et alors, est-ce que vous accompagnez votre morceau de viande de la délicieuse sauce chimichurri?
Je ne me rappelle pas, alors, je ne savais pas si elle avait
un
nom.
C'est une grande spécialité aussi, c'est un condiment fait assez pimenté à base d'herbes, d'ail, d'huile, de vinaigre et donc de piment. Alors soit on l'utilise comme condiment, c'est-à-dire qu'on va tremper ces petits morceaux de viande dedans, ou on en met un petit peu sur les pommes de terre, soit on fait carrément mariner la viande dedans avant de la cuire, ce qui va évidemment lui donner... du goût et du caractère.
Est-ce que ça vaut une béarnaise, franchement, Olivier?
Alors, rien ne vaut une béarnaise minute, voilà. Soyons d'accord.
On est d'accord.
Mais quand
parce
on est
là,
là-bas...
moi, je salive, mais ouais. Il me manque la béarnaise.
Non, mais pour la version française, on fera la béarnaise. Et puis tout ça s'arrose, évidemment,
oui.
des grands vins argentins, parce que l'Argentine est un pays producteur de vin depuis très longtemps, depuis plus de 300 ans. C'est le 5e pays producteur de vin au monde aujourd'hui, avec des vins qui ont beaucoup, beaucoup monté en qualité ces dernières années. L'emblème du vin argentin, c'est le cépage Malbec, un cépage qui vient de chez nous, qui vient de France, qu'on trouve d'ailleurs dans le sud-ouest, dans la région de Cahors, par exemple, ou qu'on trouve dans la Loire sous le nom de Caux. Et ce cépage a été importé lors des différents voyages et des colonisations. On trouve aussi toute une série de cépages espagnols et le vignoble argentin qui s'étend presque sur essentiellement au nord du pays, mais sur des milliers et des milliers de kilomètres là aussi, ben, produit des vins qui aujourd'hui sont très intéressants et que je vous engage à déguster. On les trouve en France d'ailleurs de plus en plus, notamment dans des restaurants de viande argentin. D'ailleurs, c'est des vins assez trapus, assez puissants.
Un peu comme les gauchos.
Voilà, exactement. Et qui sont caractère. En général cultivés en altitude parce que là aussi, une fois encore, pour avoir des beaux vins, il faut aller chercher la fraîcheur. Donc, on est plutôt en altitude, notamment dans la région de Mendoza, qui est très connue pour la qualité de ses vins.
Alors, l'Argentine, c'est un pays d'immigration et notamment beaucoup d'Italiens. Est-ce que du coup, il y a des plats italiens qu'on retrouve?
Ben alors là, ça va sans doute vous surprendre, mais l'un des plats les plus faciles à trouver ou les plus communs en Argentine, figurez-vous, c'est l'escalope milanaise.
Ah bon?
On dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mais oui, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'immigration italienne, espagnole, allemande aussi. Et l'un des plats italiens qui se sont appropriés, c'est l'escalope milanaise. Hein. Bah, alors vous la connaissez, hein, cette escalope panée avec une panure à l'anglaise, un petit filet de jus de citron. C'est pas mal non plus. Alors, je pense pas que ça vaille tout à fait leur très grand barbecue, mais bon, bah, faut une bonne escalope milanaise bien faite, c'est pas désagréable. Ouais.
Et moi, je dois dire que ce que j'aime beaucoup à Buenos Aires, dans les restaurants, c'est qu'il y a souvent, ils sont souvent un petit peu désuets. Il y a un look un peu 50s, et donc vous avez les nappes blanches, le service un peu à la française, mais à l'Argentine en même temps.
Oui, ouais, c'est un mélange.
Et il y a une atmosphère dans ces restaurants très agréable, vraiment délicieuse.
Une toute petite tendance à des restaurants végétariens qui commencent à voir le jour à Buenos
Aires.
J'y étais en février dernier, j'en ai vu quelques-uns, on m'a expliqué que c'était une petite tendance naissante, on reste prudent. Hein.
Oui, parce qu'il y a d'ailleurs un plan national et gouvernemental pour inciter les gens à manger moins de viande. D'abord, parce que ce n'est pas forcément bon pour la santé de manger autant de viande chaque jour et chaque semaine, mais aussi parce qu'on sait qu'économiquement, aujourd'hui, il y a des tensions, notamment sur ces grands troupeaux qui ne sont plus très rentables. Et puis, c'est écologiquement assez compliqué aussi de défendre la viande à ce niveau-là. Quoi.
Merci beaucoup, Olivier. Voici maintenant, alors ça, c'est le voyage absolu, c'est le morceau parfait. Henri Salvador, Syracuse.
Syracuse, j'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand Lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. pays du matin calme, aller pêcher au cormorant et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse. Que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir.
Salvador, Syracuse sur Europe 1.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes partis en Argentine et il y a un personnage célèbre dont on n'a pas parlé. Qui vient d'Argentine,
oui,
Nathalie.
Oui, un petit clin d'œil du côté du Vatican, si vous me le permettez, le très saint père, le pape François. Saviez-vous que dans une autre vie, pour payer ses études de chimie, il a été videur de boîtes de nuit à Cordoba. Si, la ville de Cordoba, dans le nord-est du pays.
Videur de boîtes de nuit.
Jorge Mario Bergoglio, videur de boîtes de nuit. Un gros bras, le pape.
Il n'a pas la carrure. Hein.
Ça, c'est
il a perdu.
Là. Ça, c'est de l'info. Jean-Bernard, vous connaissez l'Argentine comme votre poche. Quand on va
aussi bien que la Lorraine, peut-être.
Pas tout à fait, mais presque plus,
j'ai l'impression. Buenos Aires, qu'est-ce qui peut nous plaire là-bas, Buenos Aires, pour vous.
Écoutez, les Français, c'est vrai qu'on adore le tango, Philippe. Tango de mi corazón, tango de mon cœur. Alors, j'ai eu la chance d'assister à des répétitions de tango dans cette ville magnifique. Ça n'a rien de folklorique. Il faut quand même bien se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas pour les touristes.
C'est du sérieux.
C'est très sérieux. Il y a toute une codification. C'est un rituel. Et c'est vraiment addictif. Les porteños m'ont dit, on est addict, on est accro à notre danse qu'est le tango.
Et pourquoi ?
Mais parce qu'il y a un côté... culturel, c'est toute l'âme de la ville qui s'exprime à travers cette danse-là.
Cette espèce de mélancolie.
Alors, il y a une mélancolie qui est très forte, mais j'allais dire aussi que le tango, tout le monde se l'approprie aussi. Il est en train de bouger, ce tango. Il y a des codes très classiques avec l'homme et la femme, mais il y a les jeunes générations, on m'a expliqué ça, sur place j'ai vu des jeunes qui m'ont dit on est en train de s'approprier le tango et de le vivre autrement. Ils cassent un peu les codes, ces jeunes. Ils apportent une touche un petit peu différente dans la façon de danser. Donc vous avez plusieurs types de tango. Vous avez des tangos très traditionnels que vous allez trouver dans certaines milongas. Les milongas, c'est les salles de danse. Et vous avez d'autres types de tango, peut-être plus féministes, d'ailleurs pour certains. Les féministes revendiquent aussi l'appropriation du tango.
Et c'est comment du tango féministe ?
Eh ben, c'est deux femmes qui dansent ensemble pour, là encore, casser les codes. Voilà. Ouais. Donc le tango,
et
j'ai adoré.
Que moi, j'ai vu un club de tango gay.
Eh ben, exactement.
Avec que des garçons
exactement.
Qui dansent ensemble. C'est sympa.
Mais c'est sympa et surtout, ça montre que le tango est actif. C'est pas du tout figé dans les codes. C'est quelque chose de très vivant. Et moi, j'ai adoré cette spontanéité aussi qui entoure cette danse. Je suis passé dans un parc. Il y avait un kiosque, vous savez, les fameux kiosques qu'il y a. Je suis arrivé là et il y a des groupes de gens qui sont arrivés, se sont mis à danser. Ils dansent devant vous et vous assistez à ça. Enfin, franchement, les yeux me sortaient des orbites. C'était d'une spontanéité, naturel qui était exceptionnel. Ouais. L'idéal quand même, c'est d'y aller avec un guide, un connaisseur ou une connaisseuse d'ailleurs.
Et puis une partenaire.
Et ne me demandez pas de danser le tango dans le studio, Philippe, je ne le ferai pas.
Allez, s'il vous plaît.
Non, Nathalie, je vous assure, je ne le ferai pas.
Ça va tanguer sur Europe 1.
Mais franchement, c'est quelque chose qui m'a pris aux tripes parce que c'est très émouvant. Ouais. Et je vais même citer Milena, la personne qui m'a accompagné, cette guide qui m'a expliqué les codes du tango. Elle m'a dit, quand on écoute le tango, c'est triste. Quand on le danse, c'est joyeux.
Ah, c'est beau. Elle vous a plu, Milena ?
Ah, écoutez, c'était l'incarnation de la danseuse de tango, très typée.
Alors, côté nature, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
En fait, il y a une pépite à 25 km seulement de Buenos Aires. Buenos Aires est quand même une des villes immenses d'Amérique du Sud. Bah, vous faites une heure de route, vous arrivez dans un espèce de paradis vert, ça s'appelle le delta du Parana. Ça fait 20 fois la Camargue, Olivier. Tenez-vous bien, la surface de la Belgique, voilà, si on voulait résumer.
Je vois mieux, oui.
Voilà. Et ben, alors, sauf que c'est beaucoup plus coupé du monde que la Belgique. Et dans ce territoire-là, il y a seulement 15 000 habitants qui vivent dans le delta du Parana. C'est une espèce d'immense Venise verte. Il y a plein de canaux, il y a plein d'îles. Et tout le monde circule, ces 15 000 personnes circulent à bord de bateaux. Donc vous avez un bateau ambulance, un bateau épicerie. Et on voit les écoliers qui vont à l'école en bateau. Et pour vous, touristes extérieurs, vous pouvez découvrir ce monde-là à la journée au départ de Buenos Aires sous forme d'excursion. Vous avez des guides qui vous emmèneront au Zodiac découvrir un petit peu tout ce labyrinthe de canaux et de chenaux et vous allez vous imprégner de cette nature-là. Et le top du top, c'est vraiment ce que je recommande aujourd'hui, c'est de séjourner dans une maison sur pilotis dans ce delta du Parana. Ça se fait, c'est l'équivalent des chambres d'hôtes.
Ouais, beau voyage aussi. Alors, il y a un endroit où on a envie d'aller quand on va en Argentine parce que le nom fait rêver de manière absolue, mais c'est au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, au-delà de la Patagonie presque, c'est Ushuaia.
Ushuaia, et c'est la terre de feu, Tierra del Fuego. C'est encore plus mythique que la Patagonie. Alors, j'en parle avec une certaine émotion, Philippe, parce que c'était mon dernier voyage d'avant-confinement, figurez-vous.
Ah oui ?
Je suis revenu début mars, voilà.
Vous avez failli être confiné là-bas ?
Ça m'aurait peut-être pas déplu, remarquez. Bon, ça fait un peu loin quand même de la famille. Mais c'est vrai que j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai fait une croisière à bord de l'Australie. C'était le seul bateau qui est habilité à naviguer dans ces eaux de terre de feu parce que c'est un labyrinthe absolument incroyable, un dédale d'îles, d'îlots, de chenaux, de fjords. Et avec ce bateau, vous allez pouvoir approcher d'endroits qui ne sont pas accessibles par la route. C'est vraiment l'ultime, le bout du monde. Et vous êtes face à vous, tous les jours, à des excursions à bord des Zodiacs. Vous approchez de ces fameux glaciers. Et franchement, ils sont plus impressionnants que le Perito Moreno, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui va voir le Perito Moreno. Là, vous êtes devant des glaciers, en cul-de-sac de fjords, et vous avez ces immenses masses blanches qui sont face à vous. Et de temps en temps, il y a des gros blocs qui se détachent. Et en plus, vous en visitez plusieurs, des glaciers. Aucun ne se ressemble, Philippe. Il y a des glaciers sportifs, toniques, qui bougent, et des glaciers qui reculent, c'est un peu les pépères, ceux-là. Et des glaciers qui avancent, ils en veulent, ils sont motivés. Il y a tout type de glaciers. Chaque glacier à sa personnalité.
Mais on s'approche jusqu'à combien de mètres du glacier ?
Alors, le glacier, je me rappelle du Condor, glacier Condor, on s'est approché, on était à même pas 20 mètres. Alors, les guides nous ont dit qu'ils connaissaient très bien, les guides naturalistes, on pouvait s'approcher sans danger. Mais il y en a qui sont beaucoup plus actifs, et là, c'est pas possible, il faut vraiment rester en retrait.
Il y a une escale qui vous a marqué par là autour ?
Ah bah c'est le fameux Cap Horn, parce qu'avec cette croisière Australis, on débarque sur l'île de Horn, figurez-vous. C'est le point émergé le plus au sud de la planète, 56 degrés de latitude. Débarquement au Zodiac. Et là, on est dans une ambiance incroyable parce qu'il y a des bourrasques de vent de 80 km/h. Oui, voilà, c'est ce qu'on entend là. C'est exactement cette ambiance-là.
Ça fait pas envie, ça.
C'est une ambiance, Philippe. Il y a ce ciel gris, ces bourrasques, ce monument qui commémore tous les marins qui ont péri. C'est vrai que c'est assez sinistre quand même. Ouais. Et surtout, j'ai rencontré Ariel, Nathalie et leurs trois enfants. C'est la seule famille qui vit sur ce bout du monde. Ils sont employés par la marine chinienne pour faire des relevés météo, de la surveillance. Ils sont coupés de tout, pas de téléphone, pas d'internet. Et ils m'ont raconté les rafales à 200 km/h pendant l'hiver austral, c'est-à-dire maintenant, qui secouent la maison comme dans un tremblement de terre. Ils m'ont dit avoir peur et je peux bien comprendre leur ressenti.
Merci Jean-Bernard, vous nous faites un voyage extraordinaire. Là, on passe par toutes les émotions. Merci les amis pour ce grand voyage en Argentine. On se laisse la nuit pour respirer un peu et on repart dès demain. On prend les valises. À 17h, nous irons dans un tout petit pays, mais qui sur quelques kilomètres a une variété incroyable. Vous passez de la jungle à la montagne fraîche et brumeuse, presque dans une ambiance écossaise, puis aux plages paradisiaques. Tous les 50 kilomètres, on change de monde. Je vous emmènerai au Sri Lanka. Et en première heure, nous irons sur la terre des gardiennes, des gardiens, des flamants roses et des taureaux. Nous serons en Camargue. À demain, dans quelques instants, le grand journal du soir avec Thierry Dagiral. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe, vous allez bien ?
Très bien, c'est bon. Moi, dès que je voyage, je suis sur un nuage.
Et c'est tellement agréable de vous écouter, de partir, de s'évader avec vous.
Qu'est-ce qu'il y aura dans l'info ce soir ?
On va parler beaucoup des soignants, vous savez, parce qu'ils seront à l'honneur demain 14 juillet. On va parler du Ségur de la Santé et puis on sera en Ardèche tout à l'heure à 19h40.
Merci Thierry.
Rendez-vous demain ?
À demain.
À demain 16h, place à l'info sur Europe 1, c'est dans un instant.